Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, le parti d'en rire. Bonjour Alain Vaillant.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française à l'Université Paris 10 Nanterre. Vous avez commis plusieurs ouvrages sur la culture du rire. Le dernier en date aux éditions du CNRS, La civilisation du rire. Alors, clap de fin pour les guignols de Canal+. 30 ans après leur apparition, les marionnettes sont mises à la retraite. La chaîne cryptée l'a annoncé la semaine dernière. Elle met fin à un de ses programmes les plus emblématiques. Programme qui aura profondément marqué la vie politique. Les guignols, en particulier dans les années 90, s'étaient imposés à la fois comme les meilleurs mémorialistes de leur époque et comme un redoutable contre-pouvoir. Alors, si l'on peine aujourd'hui à leur trouver des successeurs, la liste de leurs devanciers est en revanche richement garnie. Presque satirique, chansonnier, humoriste engagé, la France a développé au fil du temps la tradition d'un rire politique jamais aussi féroce que lorsque le pouvoir en place l'oblige à être subversif. Se moquer des puissants est d'autant plus redoutable que la liberté de le faire est contrainte. Alors le parti d'en rire, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie. Alain Vaillant, puisqu'on va parler de l'actualité et de celle des guignols, vous étiez-vous un spectateur assidu de ce programme ?
Oui, à la grande période des guignols, parce que le problème du comique, c'est qu'il fait événement, il ne peut pas faire événement longtemps, si je puis dire. 30 ans, c'est très long pour un phénomène comique. Alors, comme beaucoup, j'étais nostalgique de la grande époque des guignols et à vrai dire je ne le regardais plus beaucoup.
Alors est-ce que l'annonce de la fin de ce programme sera considérée comme un gros événement ? En tout cas, ça a été annoncé la semaine dernière par la chaîne Canal+. Ça a évidemment été évoqué dans un des sketchs des guignols et qui de mieux pour le faire que son personnage le plus emblématique, Jacques Chirac.
Oh purée ! On a peut-être poussé le concept du printemps un peu trop loin, non ?
Et si on partait faire du fromage de chèvre dans le Larzac ?
Anso, je veux bien, mais on a une émission à présenter demain.
Oui, oui, demain, même heure, même duo, même trip. Mais qu'est-ce que demain ? Et puis, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que le cosmos ?
Oh, putain.
Voilà.
Voilà les guignols qui disent au revoir, il reste encore quelques épisodes mais ils vont finir par donc disparaître définitivement de l'antenne. Vous le disiez Alain Vaillant, bon alors il y a eu la grande époque des guignols. Est-ce que malgré tout là on peut dire qu'il y a aujourd'hui une page de l'humour politique en tout cas en France qui se tourne, et quelle page est-ce qu'ils incarnaient ?
Une page, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on exagère toujours les ruptures historiques. Ce qui me semble évident, c'est que le rire est tellement disséminé maintenant dans les médias que je ne vois pas actuellement d'espace pour un phénomène comique comme il y a eu pour les guignols, comme avant pour Thierry Luron, pour Coluche, etc. Donc c'est une sorte de non pas d'usure, mais de banalisation probablement du rire qui explique aussi que pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de phénomène culturel comparable au guignol. Cela dit, l'extrait que vous avez passé est tout à fait intéressant, parce que si Chirac est devenu si populaire, c'est un phénomène dans les guignols, c'est que c'était considéré comme un loser, donc un personnage sympathique. En principe, le comique satirique est un comique d'attaque. Et au fond, quand on y réfléchit, au cœur des guignols, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un comique d'empathie qui transgresse la règle.
Ce qui est d'ailleurs sans doute assez révélateur, c'est que bon, alors il y a cette disparition aujourd'hui qui se fait dans une relative indifférence, mais il y a deux ans, quand il s'est agi de les faire déjà disparaître, et puis il y a eu une levée de bouclier, notamment dans le milieu politique, pour dire non, il faut absolument les maintenir, ils sont passés en crypté, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, c'était moins politique, c'était plus autour du people, mais parmi les politiques qui ont voulu défendre leur présence, il y avait par exemple Claude Barthes, le président de l'Assemblée nationale, qui saluait leur côté parfois acide, qui aère l'actualité, la manière de commenter la politique. Je pourrais citer d'autres réactions. Est-ce que ça veut dire que finalement, les guignols étaient devenus presque indispensables à la vie politique, en tout cas à l'existence de personnages politiques ? Si on n'avait pas sa marionnette, c'est qu'on n'était pas vraiment installé dans la vie politique.
Oui, je suis moins sûr. Enfin, ce qui est frappant, c'est qu'il y a actuellement une grande intrication entre les enjeux économiques, industriels et le rire. Et la lutte pour le maintien des guignols était essentiellement liée à la question des investissements lourds des milieux économiques dans les médias. Et c'est une vraie question. C'est-à-dire que les enjeux économiques autour du rire deviennent tellement énormes qu'évidemment, ça a remis en cause la fonction purement politique et satirique du rire.
Je reviens à ce que vous avez dit sur Jacques Chirac, qui de personnage assez ringard, on va dire, à l'époque, en tout cas, hein, quand il y a le fameux sketch sur manger des pommes va devenir très très populaire parce qu'il y aura une forme d'affection à son égard. On est là dans la parodie, on est dans l'imitation. Et ce que vous dites à propos de ce genre humoristique, Alain Vaillant, dans votre livre, c'est qu'elle a un caractère ambivalent. Dites, en apparence, elle disqualifie la cible qu'elle se donne, mais en réalité, elle la valorise pour que l'effet comique soit le plus puissant possible.
Oui, la parodie est un effet d'imitation, de représentation, et donc elle familiarise avec l'objet de la parodie. Et la parodie crée une sorte de connivence entre le parodiant et le parodié et le public. Alors lorsque la parodie devient plus satirique, ça devient difficile, mais au cœur de la parodie, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la publicité, autour du phénomène que l'on parodie, des sportifs, des hommes politiques, etc. Et le cas de Chirac, encore une fois, est un cas tout à fait remarquable, parce que ce qui caractérise le comique populaire, c'est qu'un personnage pathétique soit sympathique parce qu'il est comique. Et c'est bien ce qui s'est opéré grâce aussi au recours à des marionnettes, ce qui était quand même une sorte d'invention tout à fait géniale.
Et est-ce qu'on pourrait pousser la logique un petit peu plus loin en se disant que, si ce n'est l'humour, mais en tout cas la parodie, est conservatrice, en cela que finalement elle peut rendre aussi sympathique une situation dans laquelle on se trouve. On la critique, mais en même temps ça nous pousse à l'accepter. Et donc si la parodie est conservatrice, sachant qu'on est dans une émission politique et que le conservatisme est plutôt à droite, la parodie serait de droite.
La parodie est en effet assez ambigu, et c'est pourquoi les milieux les plus contestataires au XIXe siècle, par exemple les milieux socialistes, révolutionnaires, étaient extrêmement méfiants à l'égard de cette culture de la parodie, qui en effet crée une forme d'adhésion à la culture dominante. Même si elle est critique, une parodie est une reproduction, donc une imitation, donc une acceptation en effet.
Ça veut dire que la culture dominante, le pouvoir politique a toujours plus ou moins accepté ce genre-là, la parodie ?
Elle est obligée. Alors les grandes périodes de parodie, c'est la caricature, d'abord au XIXe siècle, avec l'image parodique. Les pouvoirs se sont toujours inquiétés, bien sûr, de ce déploiement de parodie. La parodie est sur une corde raide, soit de créer de l'assentiment, soit de la contestation. D'où le problème pour le parodiste d'aller le plus loin possible dans l'agression. C'est ce qu'a fait Thierry Luron à un certain moment, où on est tombé vraiment dans l'attaque violente, et c'est tout le problème des imitations parodiques, bien sûr, sur les médias.
Ah bah, puisque vous avez évoqué Thierry Le Luron, écoutons justement un de ses grands faits d'armes. On est en 1984, il est à la télévision chez Michel Drucker, l'émission est en direct. Il va reprendre une chanson de Gilbert Bécaud, L'important c'est la rose, sauf qu'évidemment, les paroles sont changées.
Le 10 mai, il y a 3 ans, fut un jour extraordinaire, à bien marqué d'une pierre. Oui, vraiment, l'Élysée prit pour 7 ans un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, Mitterrand. L'emmerdant, c'est la rose. L'emmerdant, c'est quoi? C'est la rose, l'emmerde. Chante la rose, crois-moi. Ouais.
Avec cet emmerdant, c'est la rose, en 1984, donc Alain Vaillant, on est dans quel genre d'humour ? Est-ce qu'on est au-delà de la parodie, là, effectivement, hein, quelque chose de très féroce, de très contestataire ?
Oui, on est dans l'agression franche et nette. Alors, vous disiez une chose importante dans votre introduction, c'est que l'attaque satirique implique qu'on s'en prenne à un pouvoir qu'on estime comme un pouvoir autoritaire et répressif. Et lorsqu'on écoute effectivement la violence de ce sketch, ça remet en mémoire l'extraordinaire violence à l'égard de la gauche qui arrive au pouvoir en 81. Donc on peut trouver ça très drôle, mais il y avait une violence qui était au-delà des limites du raisonnable sans doute, et on a oublié à quel point Mitterrand était impopulaire.
Et une gauche qui était quand même pas non plus très tendre avec cet humoriste et cet imitateur Thierry Luron, qui avait raconté qu'il avait eu un certain nombre de contrôles fiscaux, quoi. Enfin, il avait bien senti que le pouvoir en place lui était assez hostile également, hein.
Oui, alors on comprend ça parce que Thierry Luron est une star du comique, et pour des raisons, je dirais, d'histoire culturelle, il n'y a pas l'équivalent de telle star aujourd'hui. Dans les années post-68, dans les années giscardiennes, les comiques ont eu une aura tout à fait extraordinaire.
qui incarnerait d'ailleurs aujourd'hui peut-être cette insolence et cette férocité dans l'humour à l'égard du pouvoir politique. Est-ce que parce que il y a peut-être moins d'autoritarisme, moins de menaces réelles ou supposées sur les libertés, il y a peut-être moins de figures qui pourraient être envisagées comme successeurs d'un Thierry Le Liron ou d'un Guy Bedos?
Oui, en effet, tout le monde critique maintenant, enfin sur les réseaux sociaux, il y a des enquêtes, enfin un discours critique, et très violent contre le politique, et il n'y a pas donc de figure qui pourrait émerger avec un tel statut. Je dirais que maintenant, ceux qui jouent ce rôle-là, ce n'est pas un imitateur comme Thierry Luron, ce sont plutôt les chroniqueurs, notamment les chroniqueurs de radio, bon, on pense évidemment à ceux sur France Inter, qui tiennent des discours très agressifs, ils n'ont évidemment pas l'audience d'un Thierry Luron. Je dirais que le comique populaire, globalement, a quitté le terrain de la satire politique.
Et parmi ces chroniqueurs de France Inter, il y a Charline Van Honecker, il y a Alexis Vizorek, ils ont un point commun l'un et l'autre, ils sont belges. Est-ce que c'est totalement dû au hasard, à votre avis, le fait que peut-être que les humoristes les plus féroces à l'égard des invités politiques, notamment ceux de la majorité, soient belges et pas français?
Non, c'est évidemment une manière de choisir des humoristes qui sont hors jeu, qui ont le droit de critiquer les Français, comme dans les lettres persanes, le persan critiquait aussi les Parisiens. Donc c'est une manière de résoudre le problème de la censure de la satire politique sur une chaîne de radio, et notamment en public. Voilà, c'est un procédé comme une autre, et qui à l'avantage de s'appuyer sur, je dirais, une culture nationale ou régionale, en tout cas, où le rire est très important, c'est-à-dire la culture wallonne.
Alors, sur la question de la censure, justement, Alain Vaillant, vous êtes intéressé beaucoup, notamment au 19e siècle. Est-ce qu'on peut dire que la censure, à l'époque, a pu contribuer à forger un certain rire qui serait le rire français, qui aurait peut-être ce côté très satirique, parfois très féroce?
En effet, c'est vraiment l'image que les Français ont, d'ailleurs depuis le XVIIIe siècle, hein, un rire méchant, un rire agressif, un rire orgueilleux parfois, dit-on. Et c'est lié probablement au fait que la France, peut-être que plus longtemps qu'un pays comme l'Angleterre, a connu des régimes répressifs, des régimes de censure. Et donc l'agression par le rire est légitime, puisqu'on ne peut pas critiquer le pouvoir. Et c'est encore une fois ce que l'on disait tout à l'heure, l'agression satirique est légitime parce qu'elle tient lieu de contestation. Et pendant tout le 19e siècle, vous avez des monarchies, des empires, des manœuvres de censure, etc. Jusqu'à la grande loi libérale de 80 sur la presse, on rit parce qu'on ne peut pas critiquer. Le problème, c'est que le rire satirique et méchant a tellement été, si je puis dire, héroïsé, sacralisé, qu'on a continué à agresser, même en régime de liberté, bon, par exemple au moment d'affaire Dreyfus, etc.
Vous nous parliez, en préparant l'émission en amont, des campagnes de l'irrespect qui ont failli faire tomber Louis-Philippe.
Oui, lorsque intervient la révolution de 1830, on abolit la censure et la caricature se déchaîne. On représente le roi sous forme de poire et toutes sortes de caricatures. Et pendant plusieurs années, la France a été dans une situation semi-insurrectionnelle, et notamment à cause de la presse et de la presse satirique. Donc c'est la campagne de l'irrespect qui a duré jusqu'en 35, jusqu'à un attentat très meurtrier contre le roi et son entourage. Bon, le roi n'a pas été blessé, mais ensuite on a pris des mesures, on a rétabli la censure, et c'est ce rétablissement de la censure qui a créé un génie comme Daumier, puisque les satiristes n'ont plus le droit de caricaturer la politique, donc ils ont caricaturé la société, et c'est pour ça qu'on a ces belles planches sur les médecins, sur les légistes, etc., puisqu'ils n'avaient pas le droit de caricaturer les hommes politiques. Mais le pouvoir était constamment menacé par la satire, et c'est pourquoi aussi Napoléon III, sous le Second Empire, a pris des mesures très répressives à l'égard de la satire. Il y a une vraie peur à l'égard de la satire.
On pourrait d'ailleurs même remonter plus avant, hein, dans le passé, Alain Vaillant, avec les Mazarinades.
Oui, oui.
C'était quoi les Mazarinades?
Les Mazarinades, c'était des chansons, des libelles, alors qu'ils circulaient de la main à la main, ou qui étaient imprimées de façon très sommaire. Alors c'était pas du périodique, mais ça enflammait Paris contre Mazarin, qui était très impopulaire, aussi parce qu'étranger d'ailleurs, c'est la question de la xénophobie, il y avait de ça derrière les Mazarinades.
Je vais citer encore un extrait de votre livre, justement avec peut-être l'avènement de la République, qui a contribué aussi à façonner un peu différemment le rire, l'humour. Vous dites très logiquement, c'est avec l'établissement de la Troisième République et l'entrée véritable dans l'ère démocratique que les conditions politiques sont enfin réunies pour que l'humour ait droit de cité. Les professionnels du rire se détournent alors pour partie de l'arène politique pour se moquer désormais d'eux-mêmes et de la société française. Ça veut dire que le rire politique ne prend plus pour cible des personnages de l'État, mais plutôt les travers de la société.
Il reste de la satire politique, évidemment, dans les journaux, ce sont les caricaturistes de quotidien, mais il est vrai que l'humour, c'est-à-dire un humour plus gentil, et où on s'inclut dans le rire, apparaît en France à cette époque, alors que jusqu'à la fin du XIXe siècle, le mot humour est un mot anglais. Et dans les dictionnaires, on le marque comme mot anglais. Lorsqu'on est en démocratie, lorsqu'on peut contester, discuter avec le pouvoir, lorsqu'on détient le pouvoir, puisqu'il y a des parlements et une démocratie, pourquoi s'attaquer aux hommes politiques? Et donc le rire va devenir non pas plus gentil, mais en tout cas va se desserrer, va introduire des éléments d'empathie, de connivence. Et ça, c'est la grande tradition de l'humour populaire, qui va ensuite passer au cinéma au XXe siècle.
Qu'est-ce que vous appelez humour populaire?
Un humour populaire, c'est un rire qui crée de la connivence. Quelqu'un comme Bourvil. On aime Bourvil parce qu'il est ridicule. La tradition classique, la tradition aristocratique, faisait qu'on se moquait du peuple. Il était ridicule et on n'éprouvait aucune émotion pour lui. La grande invention du comique à l'âge moderne, c'est comprendre que le rire est la principale source d'émotion, de véritable émotion. Il y a quelque chose d'amoureux entre un humoriste et son public. Quelqu'un comme Coluche est extraordinairement émouvant.
Est-ce qu'on pourrait dire, d'ailleurs Alain Vaillant, en tout cas, est-ce qu'on pourrait essayer d'identifier quel type de régime politique est au pouvoir en fonction du type de rire qui est dominant dans une société? Est-ce qu'on pourrait faire ce lien-là?
Jusqu'à un certain point, car il reste des traditions nationales. Le rire français restera un rire plus agressif que d'autres. Mais par exemple, on voit bien que s'il y a le phénomène Charlie Hebdo, c'est-à-dire le retour à un rire très agressif qui avait disparu, c'est à cause de la Ve République, c'est à cause de la guerre d'Algérie, donc de l'établissement d'un régime que l'on considère comme un régime relativement répressif, et on voit réapparaître immédiatement ce rire d'attaque qui existait au XIXe siècle.
Donc s'il n'y a pas le général de Gaulle, il n'y a pas Rakhiri ni Charlie Hebdo?
Oui, alors ensuite, sous Giscard d'Estaing, c'est un régime beaucoup plus libéral, mais si je puis dire, on a gardé les habitudes de l'agression. Il s'est passé la même chose qu'à la fin du XIXe siècle. On a continué à être très agressif parce qu'on avait été formé par le Second Empire. Il y a toute une génération d'humoristes qui ont été formés par la répression d'avant 68 et qui ont continué à être agressifs alors qu'ils pouvaient libérer leur rire, d'où le phénomène Thierry Luron aussi en 84. Je dirais qu'on est à une époque où quand même la liberté s'est diffusée plus largement et où cette forme d'attaque par le rire a disparu, le vrai problème étant maintenant la question des intérêts économiques dans l'économie du rire, ce qui est le vrai problème derrière la disparition des guignols.
Donc c'est moins la liberté qui pourrait être contrainte par le pouvoir politique, qui effectivement aujourd'hui semble être assez large, que cette liberté du pouvoir économique. Bah écoutez, ça tombe bien puisque Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes intéressé à un humoriste qui, lui, a navigué au fil de sa carrière entre entreprise publique, entreprise privée. Il est aujourd'hui à Europe 1, il s'appelle Didier Porte et vous l'avez interrogé justement sur la liberté de blâmer aujourd'hui dans cette période si particulière.
Oui, Didier Porte, figure de l'humour engagé aujourd'hui, donc résolument à gauche. Il a tenu, vous le disiez, des chroniques pendant des années donc sur Mediapart, le site aussi Arrêt sur Image. Il a été bien sûr chroniqueur dans la matinale de France Inter avant de travailler pour les grandes radios privées RTL et aujourd'hui Europe 1. Alors je lui ai demandé donc dans laquelle de ces grandes stations il s'était senti le plus libre en tant qu'humoriste identifié et engagé à gauche.
Ce qui est clair, c'est que moi j'ai travaillé 13 ans sur France Inter. C'est incontestablement là que j'ai été le plus libre. La question est-ce que c'est intéressant d'être libre pour prêcher des convaincus? Sur RTL ou sur Europe 1, je pourrais me considérer en terre de mission. Politiquement, c'est plus intéressant. Bon, il se trouve que ma position aussi bien sur RTL, où j'avais une chronique par semaine chez Berne dans une émission de divertissement, c'était avec beaucoup de prudence de Berne, qui n'osait pas ce qu'il osait sur France Inter. Sur RTL, il devenait beaucoup plus frileux. Donc dès qu'il y avait un invité politique, hop, on me dégageait pour que j'y sois pas. Donc voilà, j'ai été viré d'ailleurs assez vite d'RTL, ils en ont eu un très très vite marre. Sur Europe 1, je suis parti du principe que je faisais pas de politique, j'ai une chronique dans l'émission de Burki une fois par semaine, je suis parti du principe que je faisais un autre exercice, que je faisais pas de politique, c'est pas la peine. Je veux dire, où je fais un pamphlet contre Lagardère, marchand de canons, etc., et je dégage au bout d'une semaine, ou je fais autre chose, j'ai choisi de faire autre chose sur Europe 1, voilà.
Voilà, de France Inter à Europe 1, Didier Porte a en tout cas pu se rendre compte des tabous qui pèsent parfois sur les humoristes. Alors notre époque est-elle moins drôle? Y a-t-il un recul dans la liberté, dans l'humour? Je vais poser la question.
Oui, alors je n'adhère pas aux propos un peu convenus qui consistent à dire oui, à l'époque de Coluche et de Desproges, aujourd'hui on pourrait plus dire la même chose. C'est faux, si quelqu'un avait le talent de Desproges pour faire un sketch sur les Juifs, le sketch sur les Juifs passerait très bien, c'est pas la question. Donc moi je pense qu'il y a une tendance globale à toujours plus de liberté pour les humoristes. Il y a des accidents de parcours, il y a des caractères. Je pense à Sarkozy, nous on a été avec Stéphane Guillon, on a été victime de Sarkozy, on n'a aucun doute là-dessus, hein. C'est sur ordre, son ordre qu'on a été viré, parce qu'on est tombé sur un personnage atypique, avec une maturité affective d'un gamin de 14 ans et qui a piqué sa colère et qui nous a viré comme des merdes, parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Mais je pense que c'était un accident historique, une sorte de faux pas, mais que globalement la tendance est quand même plus favorable. Un type comme Hollande serait jamais intervenu pour virer des humoristes. Je pense pas que Macron le fera non plus. Donc voilà, il y a des accidents de parcours, mais à mon sens la tendance lourde est quand même assez favorable à la liberté.
Un commentaire sur ce que vient de dire Didier Porte, Alain Vaillant.
Oui, non, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on pourrait rire autant de certaines choses maintenant qu'hier, mais est-ce que si mal? Je veux dire qu'il faut jamais oublier que le rire a une dimension d'agressivité qui est réelle. Au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait des plaisanteries, il y avait des caricatures antisémites qui étaient très très drôles. Est-ce que c'est bien qu'il y ait eu ces caricatures? C'était pas sûr. Et donc, dans la mesure où nos sociétés sont de plus en plus ouvertes à l'altérité, beaucoup plus prêtes à comprendre évidemment ce qu'est l'autre, il est normal que ce rejet par le rire disparaissent. À l'époque de Coluche, il y avait plein de plaisanteries, de blagues très drôles sur les homosexuels, parce qu'on ne voulait pas d'homosexualité. On n'en fait plus maintenant, c'est plutôt une chose heureuse. Donc il faut se méfier de l'argument « on peut rire de tout, on doit rire de tout ». Le rire est fondamentalement une agression détournée. On va agresser, on n'agresse pas vraiment puisqu'on rit. Mais il y a cette dimension agressive qui est évidemment est forte et qu'il ne faut pas négliger.
Alors il y a une tradition qu'on n'a pas encore évoquée dans le cadre de cette émission, Alain Vaillant, je rappelle à notre titre, le parti d'en rire. Alors on a évidemment piqué cette formule à Pierre Dac et à Francis Blanche, merci Antoine Mulster, heureusement que vous êtes resté en studio. Mais il y a une tradition qu'on n'a pas évoquée, c'est celle des chansonniers. Il y a encore, alors notamment à Paris, des théâtres qui proposent des spectacles de chansonniers. Il y a notamment le Théâtre des Deux Ânes qui fêtait l'an dernier son 100e anniversaire et qui, eux, alors continuent de chroniquer quand même la vie politique. Leur spectacle actuel, ça s'appelle « Tout est bon dans le Macron ». Il y a notamment Jacques Maillot qui était le directeur du Théâtre des Deux Ânes. Cette tradition des chansonniers, aujourd'hui, elle est devenue minoritaire dans l'humour et dans l'humour, disons, politique, Alain Vaillant.
Oui, c'est une tradition qui est liée à la culture du spectacle sous la Troisième République en grande partie. Laurent Ruquier vient des chansonniers d'ailleurs et maintenant il est passé évidemment dans les médias. Les formes comiques sont des formes qui vieillissent, d'autres apparaissent et il faut aussi toujours avoir en tête que le rire est fondamentalement une culture jeune, une culture de jeunes. Alors on peut continuer à rire lorsqu'on est plus jeune, heureusement c'est mon cas, bon. Mais il est bien évident que les grands événements, les grands phénomènes comiques correspondent à des phénomènes de génération. Le rire des chansonniers, évidemment, n'est pas vraiment un rire de jeunes révoltés.
Je suis assez surpris d'ailleurs, justement, que dans vos propos, vous utilisiez davantage le terme d'agressif que de subversif pour parler du rire par rapport aux politiques.
Parce que la subversion est une forme raisonnée, organisée, utile de l'agression. Mais d'un point de vue anthropologique, le rire, c'est à l'origine, si vous voulez, c'est les deux grands singes qui se bousculent, et ils rient pour signaler qu'ils ne se battent pas vraiment. Le rire, c'est une fausse bataille, mais où il y a à l'intérieur l'envie d'une vraie bataille. Et donc la subversion comique inclut quelque chose qui est de l'ordre de l'agression. Et là, vous vous situez toujours dans le cas où le rire est du côté du contestataire, de la minorité, etc. Mais historiquement, le rire a été au moins aussi souvent du côté du pouvoir. Et le rire, dans ce cas-là, exerce non pas une subversion, mais une oppression agressive à l'égard de la minorité.
Mais de quelle manière, du côté du pouvoir ? C'est le pouvoir qui lui-même se sert de cette arme-là pour contrer ses adversaires ? Ou bien c'est plutôt un rire de complaisance à l'égard du pouvoir ?
C'est compliqué de bien savoir qui est minoritaire, qui est majoritaire. Mais prenons l'exemple du rire anticlérical sous la Troisième République. Au moment où on prend des mesures contre l'Église, qui évidemment est une puissance sociale, il n'empêche que c'est le pouvoir politique qui peut s'appuyer sur le rire contre, peut-être pas une minorité, mais en tout cas un mouvement d'opinion contre lequel le pouvoir entre en conflit. Et donc il arrive souvent que le pouvoir puisse s'appuyer sur Et après tout, je parlais du rire contre les homosexuels, contre toutes les minorités, etc. Bon, s'il y a eu un rire antisémite si longtemps, c'est que, évidemment, la majorité était antisémite et voulait s'en prendre aux juifs. Donc, c'est le cas peut-être le plus fréquent. Et il y a cette tradition du 19e siècle qui a mis le rire, par principe, du côté de l'opprimé.
Donc, le rire n'est pas forcément contre le pouvoir politique, mais ça peut être aussi une arme pour le pouvoir politique. Écoutez justement ce qu'en disait il y a quelques mois de cela, au moment de recevoir son grand prix de l'humour politique, un certain François Hollande.
Bien, je vous remercie d'être venus très nombreux à cette manifestation. Je salue tous les lauréats et je prends conscience qu'un hommage donc m'est rendu. Il était temps. Je le prends très au sérieux puisque c'était pas forcément l'abondance des hommages qui justifie qu'on les néglige. Donc je suis tout à fait ravi d'être là pour que on célèbre l'humour politique, parce que j'ai toujours conçu l'humour comme un moyen de faire passer des idées ou en tout cas des arguments. L'humour n'est pas une facétie. L'humour, c'est une méthode.
Voilà, François Hollande, Grand Prix 2017 de l'humour politique pour l'ensemble de son œuvre. Alors, ce qui est assez frappant déjà dans cet extrait, c'est qu'on a l'impression qu'il maîtrise totalement les codes de la mécanique du rire et s'adresse à un public et ça fonctionne tout de suite. Mais ce qu'il dit sur le fait que l'humour, c'est un outil, c'est une arme en politique, Alain Vaillant.
Oui, mais probablement pas lorsqu'on est président de la République. Il est frappant de voir qu'en en France, on se dit que l'exercice du pouvoir doit être sérieux. L'humoriste, c'est le fou du roi, etc. Alors si vous pensez à la tradition américaine, tout président de la République américain se doit de faire des plaisanteries, et au contraire, ça fait partie de son image de président que de pouvoir faire de l'humour. La tradition ironique française fait que l'humour crée une distance, un second degré, un dédoublement du sens, et le pouvoir doit être simple.
Il y a quand même un contre-exemple assez fameux. Là, j'ai sous les yeux un livre qui s'intitule « Les sottes d'humour du général de Gaulle ». C'est chez Payot. Ce sont des sorties comme ça assez fameuses qui ont été réunies et qui sont détaillées par l'historienne Sabine Janssen. De Gaulle, il avait quand même beaucoup d'humour. Il utilisait cet humour aussi dans son exercice du pouvoir.
Oui, mais enfin, il avait prouvé le 18 juin que là, c'était pas un exercice d'humour. Je veux dire que la situation historique de certaines figures est telle qui peuvent donner la menue monnaie de leur personnalité à travers l'humour. C'est tout à fait exceptionnel. Les grands hommes, je veux dire les hommes qui ont fait des choses exceptionnelles, peuvent plaisanter probablement plus facilement. Je n'ai pas en tête des plaisanteries de Napoléon, mais bon, il devait blaguer beaucoup. Donc, nous sommes actuellement en politique dans une sorte de niveau moyen et où, je pense, la représentation de soi-même importe sans doute davantage. Et puis de Gaulle, il y avait une telle cérémonie du pouvoir, une telle sacralisation du pouvoir qu'on a le droit d'avoir un petit carnaval pour soi-même de temps à autre.
Du coup, j'avais prévu une dernière question. Alain Vaillant, parmi le personnel politique, lequel est-ce que vous trouvez le plus drôle aujourd'hui ?
Hollande était très drôle et il y avait une véritable intelligence, un amour du rire chez lui. Je pense que vraiment, parce que les hommes politiques doivent faire des plaisanteries, mais j'étais très sensible au fait qu'il aimait faire rire, et s'il continuait à faire des plaisanteries au risque d'être impopulaire, c'est qu'il aimait tellement ça qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire des plaisanteries. Et je trouve ça extraordinairement attendrissant de ce point de vue-là.
Alors vous n'avez pas cité par exemple André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, qui a bâti sa carrière sur ses traits d'humour.
Ça c'est la vieille tradition plutôt des chansonniers, voilà. Oui, ça c'est...
Je m'attendais à ce commentaire. Merci beaucoup en tout cas Alain Vaillant d'avoir participé à ce numéro de Politique. Donc je renvoie à votre livre aux éditions du CNRS, La civilisation du rire. Vous l'avez publié en 2016. Politique, c'est une émission qui est préparée par Antoine Dulster, réalisée par Véronique Villa, mise en ligne par Prune Saez, avec à la prise de son Antoine Pitiloni.